Les conflits peuvent-ils nous rendre idiots? Pourquoi nous rendent-ils idiots? C'est possible. Moi, je peux. J'espère que c'est pas de moi qu'on va parler dans cette chronique-là, Monique, parce que j'avoue là que sur les réseaux sociaux, moi, j'en ai assez. Là, je bloque les gens quand ils sont quand ils deviennent toxiques et intolérables.
Ouais, c'est pas en lien avec les réseaux sociaux, mais comme on l'évoquait en présentation, Denis Martin, peut-être qu'on pourra voir comment
Comment ça s'applique,
adapter
oui.
ce qui est dit dans cet article, qui a donc été rédigé par Jean Poitras, qui est professeur de gestion de conflits, entre autres, à HEC Montréal. Alors, un constat s'impose justement pour ce professeur après des décennies à observer et à intervenir dans la gestion des conflits. Il nous dit que même les personnes les plus compétentes peuvent perdre une partie de leur lucidité lorsqu'un désaccord devient menaçant. L'intelligence, l'éducation ou l'expérience, ben, ça ne protège pas entièrement contre ce phénomène. Des individus habituellement capables d'analyse fine peuvent alors se montrer rigides, réagir de manière impulsive ou refuser une solution pourtant raisonnable. Notre cerveau ne traite pas le conflit comme un simple problème logique à résoudre. Il active aussi des forces émotionnelles et neuropsychologiques qui influencent la perception de la situation, l'interprétation des intentions de l'autre et le choix des réponses. Les parties ne se comportent donc pas comme des négociateurs rationnels. Leurs émotions peuvent les pousser vers la défense de soi plutôt que vers la recherche de compromis. Il va sans dire que sur les réseaux sociaux, on n'est pas face à face, hein, et on ne peut pas non plus voir quelle est la réaction, comment la personne se comporte physiquement peut-être. En tout cas, on y reviendra. Trois mécanismes jouent ici un rôle central. Comprendre ceux-ci ne revient pas à justifier les comportements agressifs ou destructeurs. Cela permet plutôt d'intervenir au bon endroit. Alors, voici les trois mécanismes. Le premier, la réaction de stress. Le cerveau peut interpréter le conflit comme une menace et activer une réponse de stress. Notamment, à ce moment-là, le système sympathique associé à la libération d'adrénaline. Ce réflexe prépare l'organisme à réagir rapidement. Alors, on peut fuir, attaquer ou se défendre, ce qui peut s'avérer utile en situation de danger. Mais ça comporte un coût. L'analyse associée à l'inhibition et au jugement se retrouve réduite au profit de ripostes plus rapides et émotionnelles. Autrement dit, on réagit plus vite sous l'effet du stress, mais notre capacité, elle, à résoudre des problèmes diminue. On pourrait dire de façon métaphorique qu'en situation de conflit, on perd temporairement quelques points de quotient intellectuel. D'où le titre idiot dans le. D'où le mot idiot dans le titre. Le deuxième mécanisme consiste en la menace à l'image de soi. En effet, la personne ne perçoit pas toujours seulement un désaccord sur le fond. Elle peut aussi sentir que sa compétence, sa valeur, son statut ou sa légitimité sont remis en question. Lorsque cette menace s'active, la priorité cognitive se déplace. L'individu cherche alors à protéger ou à restaurer son image, son statut ou sa valeur sociale, au lieu de chercher d'abord un compromis. C'est comme si l'aiguillage du cerveau quittait la voie de la résolution de problèmes pour se diriger vers la protection de la face. Le troisième mécanisme consiste en la rumination émotionnelle. Quand quelqu'un vit une déception profonde, une trahison ou l'impression que l'autre n'a pas respecté un contrat social, il peut continuer à y penser et à le ruminer. Une partie de son attention demeure alors ancrée à sa blessure, même si elle veut rester rationnelle. Cette rumination entretient la colère et réduit la disposition au pardon. En contexte de conflit, cela signifie que la personne n'évalue plus, seulement les propositions sur leur logique ou leur utilité. Elle les interprète aussi à travers la blessure accumulée. Résultat, une solution raisonnable peut être rejetée si elle ne répond pas ou s'il y a un besoin de reconnaissance, de réparation ou de justice. La situation se résume donc ainsi. Vouloir rester calme, logique et centré sur le compromis ne suffit pas. En situation de conflit, le cerveau active des mécanismes de protection qui peuvent réduire notre capacité à analyser froidement la situation et à explorer des solutions créatives. Le problème ne se résume donc pas à de la mauvaise volonté. Le cerveau tend d'abord à protéger l'individu avant de collaborer. Il oriente ses ressources vers la survie psychologique, se défendre, sauver la face, réparer une blessure ou rétablir un sentiment de justice. Bien sûr, certaines personnes refoulent mieux ces réactions que d'autres, mais personne n'y échappe complètement. Le vrai piège se trouve autre part. C'est pas seulement qu'on pense moins clairement en situation de conflit, c'est qu'on ne se rend compte presque jamais sur le moment que l'on réagit plutôt agressivement peut-être. Au contraire, on a souvent l'impression de bien voir la situation, d'agir avec logique et de se justifier pleinement. Le cerveau perd en nuances, mais gagne en certitude. On se dit pas « mon stress, mon image menacée, mes ruminations émotionnelles biaisaient mon jugement ». On se dit plutôt « je vois clair, j'ai raison, c'est l'autre qui comprend pas ». Ce n'est souvent qu'après coup, une fois la tension retombée, qu'on retrouve assez de recul pour voir nos biais. Autrement dit, on ne se sent pas moins intelligent pendant le conflit, on le découvre seulement quand on recommence à penser clairement. Un constat s'impose avec l'expérience. Demander à quelqu'un de régler calmement un différend se révèle difficile lorsque son cerveau fonctionne encore en mode protection. Trois principes d'intervention en découlent. Alors, ils ne constituent pas des solutions miraculeuses, mais des repères pratiques pour restaurer une part des capacités de réflexion et rendre la résolution du différend plus fluide. La première consiste à faire redescendre la tension avant de discuter. La discussion risque de devenir plus réactive que réfléchie lorsque le taux d'adrénaline s'avère trop élevé. Si les personnes n'arrivent pas à se calmer sur le moment, bien mieux vaut prendre une pause et reprendre la discussion lorsque le système nerveux est moins activé. Ce n'est pas une fuite, c'est une condition pour retrouver l'accès à la nuance, au jugement, à la résolution de problèmes. La deuxième règle consiste à protéger l'image de l'autre. Les attaques personnelles activent rapidement la défense de l'image de soi. L'individu ne cherche plus alors seulement une solution, il cherche aussi à sauver la face. On doit donc éviter les humiliations, les accusations et les jugements. On doit admettre ses torts quand on est allé trop loin. On dira, par exemple, « j'ai peut-être dépassé les limites sous le coup de l'émotion ». Une excuse simple peut désamorcer une blessure d'orgueil avant qu'elle ne prenne toute la place. La troisième règle consiste à nommer la blessure avant de chercher la solution. Les déceptions, les sentiments de trahison ou les blessures non dites ne disparaissent pas parce qu'on les ignore. Au contraire, ils continuent souvent d'agir en arrière-plan et de saper la discussion. Les mettre en mots ne règle pas tout, mais cela réduit leur pouvoir souterrain. Une fois exprimées, elles cessent souvent d'agir comme un filtre caché dans le raisonnement. On peut alors revenir plus facilement aux problèmes réels et à la recherche d'une solution. La gestion de conflits demande du doigté. Avoir raison sur le fond ne suffit pas. On doit aussi éviter une multitude d'écueils. Les conflits ne se règlent pas seulement avec de bons arguments, mais aussi en restaurant les conditions psychologiques qui permettent aux personnes de redevenir capables de les entendre et peut-être un petit peu plus intelligents. On retrouve nos points perdus en quotient intellectuel à ce moment-là.
Ouais.
Alors voilà, c'était « Pourquoi les conflits nous rendent-ils idiots ?» et ça a été publié sur La Conversation le 16 juin dernier. Ouais. Alors, comment appliquer ça, Denis Martin, aux réseaux sociaux?
Oh, je sais pas.
Il faut peut-être pas répondre tout de suite.
Ouais, j'avoue que j'ai une relation d'amour et de haine avec les réseaux sociaux.
Oui.
Je dis toujours aux gens que sur ma page professionnelle sur Facebook, Ben, je suis là comme journaliste. Je peux pas, moi, je ne peux pas publier et laisser publier des mensonges éhontés. C'est souvent ce que les gens vont publier dans les théories complotistes et dans la haine. Les propos haineux, c'est un problème. C'est un problème parce que c'est illégal. Et oui. Moi, à chaque fois que je regarde ça, je dis, mais je suis journaliste, j'ai une responsabilité qu'est-ce qui est publié sur ma page, ça doit entrer dans un code de déontologie.
Exactement.
Alors, je rationalise parce que si je laisse ces choses-là m'atteindre, évidemment, ça me rend fou. J'ai de la difficulté avec toutes ces personnes qui ont des propos haineux, j'ai de la difficulté avec ça.
Oui. Ben, je pense que vous appliquez d'une certaine façon une des règles, c'est-à-dire de prendre un recul aussi, de ne pas... enfin, vous avez le code de déontologie journalistique, bien sûr, qui vous dicte de ne pas réagir sur ces mensonges, peut-être, ou ces fausses...
Je les efface et je bloque les gens, point barre, j'en suis rendu là. Et puis, tu sais, je me fais accuser par certains de ne pas laisser la liberté d'expression. Mais la liberté d'expression, c'est pas la liberté de dire n'importe quoi, n'importe comment, juste parce que il faut quand même que les opinions doivent être soutenues par des faits. On peut pas dire
Exactement.
N'importe quoi. Et moi, je trouve ça très important. Ça fait 40 ans que je fais ce métier-là. J'ai beaucoup de difficultés avec certaines choses qui sont dites dans certaines radios. Je me dis, mais c'est pas vérifié, ça. Pourquoi on laisse ça aller? Alors, c'est ça. Mais bon, cela dit, dans les conflits interpersonnels, c'est autre chose.
Toi, est-ce que c'est... Fois, comment tu vis ça? Des... en famille qui tourne au vinaigre, si je peux dire. Mais puis peut-être il y a une chose qui n'était pas un élément important, qui n'était pas mentionné dans l'article, c'est notre capacité d'écoute. Oui. Mais je dis bien d'écoute, et pas juste d'entendre, et dans le fond, de se braquer à l'intérieur de nous, on va laisser notre adrénaline, par exemple, prendre le dessus.
Oui.
Comprendre ce que l'autre nous dit, et peut-être une façon d'éviter les conflits, c'est d'inviter l'autre à expliquer sa pensée et de notre côté à poser des questions pour comprendre cette pensée-là.
Tout à fait, tout à fait.
Alors,
mais c'est quand même intéressant parce que tu sais, y a aussi moi une autre partie de moi qui dit ben le conflit c'est quelque chose de nécessaire dans la vie. C'est comme ça qu'on évolue en mettant en conflit ou en concurrence des opinions, des idées, des propositions différentes. Et on en discute. Parfois, ça peut être chaud. Moi, j'avoue, j'ai pas discuté avec ça. Mais j'écoutais tantôt quand tu disais quand ça devient des attaques personnelles. C'est là où ça devient problématique, je pense.
Oui. Ben c'est ça. Faut quand même considérer. Je trouve ça intéressant les trois mécanismes là. Je crois qu'il faut être conscient de ça. Oui. Ce qui nous permet, en fait, avoir une discussion, c'est pas être en conflit.
Non.
Alors. Garder justement cet échange sain, comme vous le dites, qui stimule d'une certaine façon nos idées, qui nous confronte à nos idées peut-être trop préconçues, s'ouvrir vraiment à une autre façon de lire la situation. Je trouve que cet article-là nous donnait des pistes dans ce sens-là.
Je trouve que c'est un bel appel à la sagesse. On va aller en musique et on revient avec toi, Monique. On va parler des petites brèves et peut-être des petits conseils linguistiques aussi. Merci beaucoup, c'était intéressant. À tout de suite.